Vendredi 21 juillet, un ciel généralement nuageux sur Victoria avec quelques percées de soleil, une température plutôt agréable. Que vous soyez ou non en mode vacances estivales, bienvenue dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. Alexis Gagnon en votre compagnie pour la prochaine heure. Dans l'émission d'aujourd'hui, une rencontre avec Pauline Gobeil qui vient tout juste de coiffer la casquette de directrice générale de la Société francophone de Victoria. Restez à l'écoute, nous aurons pour vous cet entretien avec Madame Gobeil un peu plus tard dans l'émission. Dans le dernier quart de cette édition du 21 juillet, par ailleurs, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Teal Phelps Bondaroff, notre chroniqueur politique régulier, qui analysera avec nous la composition du nouveau gouvernement de John Horgan, dont les ministres ont été nommés cette semaine. Mais avant ces interventions du jour, passage obligé par les actualités. Bonne émission à tous. Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne dans les infos du jour, infos du monde, infos du Canada et de Colombie-Britannique. Nous allons tout de suite débuter avec une revue de presse internationale. Tout de suite dans le portail de RFI à l'adresse rfi.fr, États-Unis, le porte-parole de Donald Trump démissionne. C'est une nouvelle que vous trouverez dans tous les médias occidentaux aujourd'hui vendredi. Le porte-parole du président américain Donald Trump, Sean Spicer, l'une des voix les plus importantes de l'administration, a démissionné vendredi après seulement 6 mois à la Maison-Blanche. Sean Spicer, 45 ans, a selon plusieurs médias présenté sa démission après l'embauche par Donald Trump d'un nouveau directeur de la communication, Anthony Scaramucci, en remplacement d'un homme qui avait lui-même auparavant démissionné en mai après seulement 3 mois en fonction. Il semblerait que la démission de Sean Spicer soit liée, au-delà du contexte explosif des liens supposés du président Donald Trump avec la Russie, à la nomination ce jour même d'Anthony Scaramucci comme directeur de la communication de la Maison-Blanche. C'est une nouvelle que l'on trouve également dans le journal Le Monde et partout ailleurs. Le journal Le Monde qui indique que Sean Spicer était une figure bien connue de l'administration Trump puisqu'il était chargé depuis 6 mois, depuis janvier 2017, des conférences de presse quasiment quotidiennes de l'administration Trump, au gré des controverses et des rebondissements de l'enquête sur d'éventuelles complicités entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump avec la Russie. L'exercice était devenu pour Sean Spicer très périlleux et il était souvent pris de court par les volte-face du président, peut-on lire dans cet article du journal Le Monde. Une autre nouvelle sur la volatilité au sein de l'administration Trump paraît dans le portail de West France à l'adresse westfrance.fr. Un avocat de Trump démissionne sur fond de pression sur l'enquête russe. Marc Corallo, porte-parole de l'équipe d'avocats du président Donald Trump, a annoncé avoir démissionné jeudi sans en donner la raison. Son départ intervient au moment où le président américain semble essayer d'influencer l'enquête du procureur spécial sur l'affaire russe. Marc Corallo, qui coordonnait la communication externe de l'équipe juridique au sujet de l'affaire russe, a indiqué dans un courriel adressé à l'agence France-Presse avoir quitté son poste, mais sans faire part de ses raisons. Une décision qui intervient au moment où le président américain semble essayer d'influencer l'enquête du procureur spécial sur l'affaire russe, comme on l'appelle. Dans un entretien accordé au New York Times, rappelle West France, Donald Trump s'est aventuré cette semaine en terrain glissant, mettant en garde les enquêteurs du procureur spécial Robert Mueller de ne pas se pencher sur les finances familiales. Robert Mueller a été désigné mi-mai par le ministère de la Justice pour diriger l'enquête fédérale sur une éventuelle collusion entre des proches du milliardaire Donald Trump et la Russie durant la campagne présidentielle américaine de 2016. Politique européenne, nous allons nous transporter dans le fil de l'agence Reuters. La libre circulation des ressortissants de pays de l'Union européenne sera préservée à l'intérieur du Royaume-Uni ou, si vous préférez, à l'intérieur de la Grande-Bretagne pendant au moins 2 années après le Brexit dans le cadre d'un accord intérimaire, ont rapporté vendredi certains médias britanniques. La première session de négociation sur les conditions du divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne s'est soldée jeudi par peu de compromis et un constat de divergence sur la façon de préserver l'avenir des expatriés. La Grande-Bretagne doit quitter officiellement l'Union européenne d'ici la fin mars 2019, à la suite du référendum du 23 juin de 2016, l'année dernière, référendum par lequel une majorité de Britanniques ont choisi le retrait de l'Union européenne. Fukushima, des débris nucléaires peut-être localisés sous un réacteur, c'est également dans le portail de Ouest-France. Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, l'entreprise TEPCO, opérateur de la centrale nucléaire de Fukushima, pourrait avoir découvert des débris de combustible sous l'un des réacteurs. L'opérateur de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima, TEPCO, pourrait bien avoir découvert des débris de combustible nucléaire en dessous du réacteur numéro 3 en endommagé, l'un des 3 réacteurs à être entré en fusion en mars 2011, rapporte vendredi l'agence de presse japonaise Kyodo. TEPCO a décelé des matériaux sombres qui pourraient être des débris nucléaires près du fond de la cuve sous pression du réacteur qui contenait des barres de combustible, ajoute Kyodo, l'agence de presse japonaise, qui n'a pas toutefois cité ses sources. Vous aurez cette information dans Ouest-France. Petit saut sur le portail de RFI, l'Allemagne gèle des livraisons d'armement à la Turquie. Après la déclaration jeudi du ministre des Affaires étrangères allemand Sigmar Gabriel, qui a durci sensiblement le ton à l'égard d'Ankara, la capitale turque, et proposé des mesures négatives pour l'économie turque, l'annonce de l'Allemagne ce vendredi sur les exportations d'armes va dans la même direction. C'est un article signé dans le portail RFI par Pascal Thibault. Nous allons à tout moment examiner si de nouvelles mesures sont nécessaires. La déclaration ce vendredi matin du patron de la chancellerie, Peter Altmaier, n'était pas une formule creuse. Quelques heures après, le ministère de l'économie, compétent pour autoriser les exportations d'armes des fabricants allemands, annonçait un réexamen des livraisons à la Turquie. Le quotidien Bild Zeitung parlait, lui, d'un gel déjà entré en vigueur de ses exportations. L'Allemagne a souligné que ces derniers mois, les demandes avaient fait l'objet déjà d'un examen plus approfondi et que 11 d'entre elles avaient été bloquées depuis 1 an et demi. Cela concernait, d'après les médias allemands, des armes de poing, des munitions et des composants d'armement susceptibles d'être utilisés pour réprimer des manifestations hostiles au régime autoritaire du président turc Erdogan. Voilà, les tensions entre l'Allemagne et la Turquie s'avivent encore. C'est dans le portail de RFI. Et pour rester un petit peu sur le sujet encore, en opérant un retour sur le portail de Ouest-France, Erdogan rejette les menaces allemandes, la crise s'envenime. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a assuré ce vendredi sur un ton de défi que son pays ne plierait pas face à l'Allemagne, qui a durci sa politique à son égard après l'arrestation de militants de droits de l'homme à Istanbul. La brouille entre les deux pays a pris une tournure d'une rare gravité après que Berlin ait décidé jeudi de jouer la carte de l'économie pour mettre la pression sur Ankara, suscitant l'ire des dirigeants turcs. « Ils ne peuvent pas nous faire peur avec ces menaces », a déclaré Erdogan lors d'un discours à Istanbul, ajoutant que la justice turque est plus indépendante que celle de l'Allemagne. Voilà, cette nouvelle complétant la première parue sur RFI et sur le portail de Ouest-France. On reste dans cette région du monde. La Grèce a subi un séisme, c'est dans le portail de RFI. Un séisme fait 2 morts sur l'île de Kos en pleine saison touristique. Un séisme de magnitude 6 a frappé ce vendredi 21 juillet les îles grecques du sud-est de la mer Égée à 1h31 du matin, heure locale. Ce séisme a fait 2 morts à Kos, sans doute des touristes en pleine saison estivale et plus de 100 blessés. Le séisme a aussi été fortement ressenti en Turquie, dans la région de Bodrum, une station balnéaire. Le tremblement de terre n'a fait aucune victime selon les autorités turques, mais des bâtiments ont été évacués. Vous trouverez cette information sur le portail de RFI. Dans les colonnes de Mediapart, ce média indépendant français est toujours à propos du Moyen-Orient. On trouve cette nouvelle concernant Israël, 3 Palestiniens tués lors d'affrontements à Jérusalem. C'est un article co-signé par Mediapart et l'agence Reuters. La tension monte dans la vieille ville de Jérusalem après que Benjamin Netanyahou eut décidé d'installer des portiques de sécurité aux entrées de l'esplanade des mosquées le 16 juillet. Des heurts ont éclaté ce vendredi après la grande prière des musulmans, au cours desquelles 3 Palestiniens ont perdu la vie. Des affrontements ont éclaté près du vieux Jérusalem après la grande prière du vendredi. Au moins 3 Palestiniens ont été tués lors de manifestations contre le renforcement des mesures de sécurité dans la vieille ville de Jérusalem. Un renforcement de sécurité décidé par Israël. Des détecteurs de métaux ont notamment été installés par les autorités israéliennes sur plusieurs entrées de l'esplanade des mosquées. Et ce vendredi 21 juillet au matin, son accès a été interdit aux Palestiniens de moins de 50 ans. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé la mort d'un jeune de 17 ans, d'un autre de 18 ans et d'un troisième dont l'âge n'est pas connu. 2 victimes au moins ont été tuées par balles dans 2 quartiers de Jérusalem-Est relativement éloignés du sanctuaire. On ignore la provenance des tirs, mais certains médias rapportent qu'un des jeunes hommes a été tué par un colon israélien. Selon Al Jazeera, la chaîne d'information qatari, des officiels de l'hôpital de Jérusalem ont, eux, indiqué qu'un des Palestiniens avait été tué par des tirs durant les manifestations qui ont suivi la prière du vendredi. Nous allons maintenant nous transporter sur le continent américain, Amérique du Sud, dans le portail de RFI. Pérou, des dizaines de milliers de mineurs sont en grève. Les ouvriers syndiqués de 56 mines péruviennes ont entamé depuis 2 jours une grève générale indéfinie. Ils protestent contre un projet de réforme de la loi du travail voulu par le président Pedro Pablo Kuczynski. Les 45 000 ouvriers syndiqués de 56 mines se sont mobilisés, peut-on lire dans cet article écrit par Eric Sanson. Le mouvement touche certaines des plus grandes exploitations de cuivre, Antamina, Cerro Verde, Cuajone et Toquepala, appartenant à des compagnies comme BHP Billiton, Glencore et Southern Copper. Les grévistes protestent contre un projet de réforme de la loi du travail qui, selon eux, diminuera la sécurité, facilitera les licenciements et fera porter le coût de l'assurance chômage par les ouvriers plutôt que par les entreprises. Voilà cette nouvelle qui nous provient d'Amérique du Sud. Pérou, des dizaines de milliers de mineurs en grève, c'est dans le portail de RFI. Une nouvelle à thématique environnementale assez positive, plutôt encourageante, paraît dans le fil de l'agence France Presse, sous la plume du journaliste Jean-Louis Santini, « La forestation en Afrique, stratégie contre le réchauffement ». Verser de modestes sommes d'argent à de petits propriétaires forestiers dans les pays en développement pour les inciter à ne pas couper leurs arbres, voire à en planter, peut contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, démontre une expérience inédite en Afrique. Cette étude menée en Ouganda et dont les résultats sont publiés jeudi dans la revue américaine Science indique que ces petites incitations financières ont permis de réduire de moitié la déforestation, un problème affectant surtout les pays en développement avec de sérieuses conséquences sur les massifs forestiers, d'importants puits de carbone. Effectivement, les forêts sont des puits de carbone et permettent de séquestrer le CO2. C'est ce que rappelle cet article de l'AFP écrit par Jean-Louis Santini. Donc, des incitatifs auprès des petits propriétaires forestiers permettent de réduire la déforestation. Vous trouverez ça dans le fil de l'agence France Presse, « La forestation en Afrique, stratégie contre le réchauffement ». Une autre nouvelle, la thématique environnementale qui nous arrive d'Afrique également, un peu plus sensationnaliste, diront certains. Elle mérite néanmoins d'être mentionnée. Xanda, le fils du lion Cécile, à son tour tué par des chasseurs. 2 ans après la mort de son père Cécile, le lion Xanda, âgé de 6 ans, a été abattu par un groupe de chasseurs de trophées le 7 juillet dernier. Le fauve se trouvait en dehors du parc national Wange au Zimbabwe, dans une zone où la chasse est autorisée. Mais sa mort, comme celle de son père en 2015, provoque un tollé international. Et cette actualité rappelle bien sûr le tollé, la levée de boucliers, le scandale qui avait suscité la mort du lion Cécile abattu par un dentiste américain le 27 juillet 2015, il y a 2 ans presque jour pour jour. Vous trouverez cette nouvelle un peu partout sur le web, donc à propos du fils de Cécile, le lion Xanda, à son tour tué par des chasseurs de trophées. Je vous lisais quelques lignes de l'article paru dans Ouest France. Et finalement, petite actualité mi-insolite, mi-sérieuse, O.J. Simpson, ex-star du football américain, va être libéré par anticipation, incarcéré pour vol à main armée. Il sortira en octobre après 9 ans passés derrière les barreaux d'une prison du Nevada. Ancienne star du football américain des années 1970, O.J. Simpson, aujourd'hui âgé de 70 ans, qui a passé près de 9 ans derrière les barreaux de la prison de Lovelock au Nevada, sera remis en liberté en octobre prochain. Ainsi en a décidé à l'unanimité le jeudi 20 juillet une commission des libérations conditionnelles. L'ancien footballeur avait été condamné à 33 ans de prison pour un vol à main armée commis à Las Vegas en 2007. Et bien sûr, cette nouvelle rappelle l'affaire retentissante de 1994, puisqu'O.J. Simpson avait été accusé du meurtre de son ex-femme, Nicole Brown. Un long procès feuilleton s'en était suivi, à l'issue duquel il avait été acquitté. Cette affaire avait passionné les États-Unis. C'était il y a plus de 20 ans, près de 25 ans en fait. Donc O.J. Simpson, qui avait été plus tard condamné pour vol à main armée et maintenant presque libre, il le sera en octobre prochain. Vous trouverez ça dans le cahier Amérique du journal Le Monde. Voilà, c'est ici que se referme cette revue de presse internationale. L'info se poursuit dans l'émission Le Débrief, édition du 21 juillet. Merci d'être à l'écoute. Dans un instant, nous allons passer aux nouvelles canadiennes. À tout de suite. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief à l'antenne du 107.9 FM CILS dans la grande région de Victoria, votre radio communautaire francophone. Nous allons passer aux nouvelles canadiennes et aux nouvelles de Colombie-Britannique avec une touche d'actualité francophone. On commence tout de suite avec une nouvelle qui paraît dans le journal Le Devoir. Andrew Scheer présente son cabinet fantôme. C'est un article paraissant en date d'aujourd'hui, 21 juillet. Le nouveau chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a complété son équipe de direction à la Chambre des communes cette semaine. Le nouveau chef du PCC avait déjà annoncé le mois dernier que le poste de lieutenant politique pour le Québec serait occupé par le député de Richmond-Arthabasca, Alain Reyes. Ce dernier sera finalement le seul francophone et le seul député du Québec à faire partie de ce cabinet fantôme, puisque ses confrères nouvellement nommés sont tous unilingues anglophones. Andrew Scheer a choisi de confier à son ancienne rivale dans la course à la chefferie, Lisa Raitt, le poste de chef adjointe de l'opposition officielle. Candice Bergen du Manitoba deviendra quant à elle la leader de l'opposition officielle épaulée par l'Albertain Chris Warkentin, qui détenait déjà la responsabilité de leader adjoint. Et c'est Mark Strahl finalement qui sera le nouveau whip conservateur à la Chambre des communes à Ottawa. Donc voilà le topo qui nous est fourni par le journal Le Devoir concernant le cabinet fantôme d'Andrew Scheer. Relations canado-américaines, nous apprenons dans le fil de la presse canadienne que l'ambassadrice américaine désignée est devant le comité du Sénat américain. La femme désignée par le président Donald Trump pour devenir ambassadrice des États-Unis au Canada a promis cette semaine d'œuvrer sans relâche à améliorer le partenariat économique entre les deux pays. La relation économique la plus importante et la mieux intégrée dans le monde, a-t-elle soutenu devant le Sénat américain lors de sa comparution devant le comité du Sénat. Peut-on lire dans cet article de la presse canadienne, Kelly Knightcraft a soutenu qu'il y a encore de la place à l'amélioration pour créer plus de croissance économique et davantage d'emplois des deux côtés de la frontière canado-américaine. La candidate a aussi fait la promotion d'un commerce libre et juste entre les deux pays pour permettre aux chefs d'entreprise et aux travailleurs américains de concurrencer à armes égales. Et cet article de la presse canadienne ajoute que l'administration Trump souhaite que le poste d'ambassadeur au Canada soit pourvu rapidement, puisque la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, doit commencer dès le mois prochain. Nouvelle thématique environnementale, une huitième baleine noire a été trouvée morte dans le golfe du Saint-Laurent. C'est dans le fil de la presse canadienne également. Une autre baleine noire de l'Atlantique Nord a été retrouvée sans vie dans le golfe du Saint-Laurent, a indiqué jeudi un organisme de protection des animaux marins. La carcasse sera remorquée vers une île du Nouveau-Brunswick où elle sera examinée par des experts. Le Marine Animal Response Society a affirmé qu'un relevé aérien mené par l'Agence américaine océanique et atmosphérique avait permis de repérer la carcasse mercredi après-midi à l'est de Chipagan au Nouveau-Brunswick. Il s'agit du huitième cadavre de cette espèce en voie de disparition trouvé depuis le 6 juin dans la région. Alors une situation alarmante concernant cette espèce de baleine, la baleine noire, huitième baleine noire trouvée morte dans le golfe du Saint-Laurent. Un article de la presse rapidement sur la situation du crime organisé. Ça s'intitule « Retour aux sources pour les Hells Angels ». C'est signé par le journaliste Daniel Renault qui évoque un retour en force des Hells Angels dans la province de Québec. Les Hells Angels qui ont été affaiblis par des opérations policières en 2001 puis en 2009. Il semble qu'ils aient été en mesure de reconstruire sur de nouvelles bases. C'est ce que nous rapporte Daniel Renault dans cet article publié en date d'aujourd'hui, 21 juillet, dans le journal La Presse. On va passer aux nouvelles de Colombie-Britannique et bien sûr, ce sont les incendies qui dominent notre actualité ici à l'échelle provinciale. Colombie-Britannique, moins de feux, mais plus de personnes en pâtissent. C'est le titre qu'a choisi le portail britanno-colombien de Radio-Canada. La situation des feux de forêt en Colombie-Britannique semble plus grave qu'à l'accoutumée en raison des conséquences sur les personnes évacuées, selon les autorités de la province. Ces autorités ont pourtant constaté une légère baisse du nombre d'incendies depuis le 1er avril. 688 feux ont été dénombrés contre 702 en moyenne à la même époque sur les 10 dernières années. Au cours des derniers jours, le nombre de nouveaux feux a diminué, mais les prévisions météorologiques s'avèrent instables pour la Colombie-Britannique, où les pompiers luttent encore contre 150 feux de forêt actifs, peut-on lire dans cet article de Radio-Canada. 12 incendies se sont déclenchés mercredi, dont 8 ont été causés par la foudre dans le sud de la province. Malgré les interdictions de faire des feux de camp et les avertissements, certains feux continuent d'être d'origine humaine, peut-on lire encore dans cet article de Radio-Canada. Le nombre de maisons détruites par les feux de forêt en Colombie-Britannique est d'au moins 79, selon les chiffres donnés par les autorités de l'intérieur de la province jeudi matin. Alors cet article qui fait le bilan peut se trouver sur le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Ça s'intitule « Colombie-Britannique, moins de feux, mais plus de personnes en pâtissent ». Et l'on apprend également sur le portail de Radio-Canada que l'armée déploie des troupes dans notre province, plus de 200 militaires supplémentaires pour aider la Colombie-Britannique. Les forces armées canadiennes ont annoncé l'envoi de 225 militaires de plus pour aider à répondre aux feux de forêt qui continuent de ravager l'intérieur de la Colombie-Britannique. Des milliers de personnes sont toujours évacuées. Donc voilà un autre bilan proposé par Radio-Canada sur son portail Colombie-Britannique. Et on va terminer cette revue de presse combinant actualité nationale et provinciale avec une touche de francophonie, comme je vous l'indiquais d'entrée de jeu. Alors, on a un article paraissant dans le journal The Gazette. Le journal The Gazette, qui est un quotidien anglophone de la ville de Montréal, c'est signé par le chroniqueur culturel Brandon Kelly, qui revient sur la controverse suscitée par le label Universal, qui a sorti une compilation de musique canadienne à l'occasion du 150e anniversaire de la Fédération. Le hic, c'est que cette compilation sur 6 CD ne comportait aucune pièce francophone, et Brandon Kelly, le chroniqueur de The Gazette, déplore cette situation. Brandon Kelly a toujours été un grand amateur de culture francophone, c'est un francophile. Il chronique dans ce journal montréalais depuis de nombreuses années. Personnellement, je l'ai connu au milieu des années 2000, lorsqu'il couvrait les festivals de cinéma à Montréal et à Toronto notamment. Sa chronique s'intitule « English Canada continues to ignore the country's franco-culture ». Le Canada anglais continue d'ignorer la culture francophone du Canada. C'est le titre de cette chronique qui revient sur la décision d'Universal, ce label de disques américain, de n'inclure aucune pièce en français dans sa compilation du Canada 150, une compilation qui a été publiée ce mois-ci. Il en a été question dans des éditions précédentes du débrief ce mois-ci, si vous étiez à l'écoute. Voilà, et c'est ce qui nous permet d'arriver à la nouvelle du jour, si vous voulez, une nouvelle francophone, une nouvelle locale qui nous concerne ici en tant que francophone de la grande région de Victoria. On apprend de la part de la Société francophone de Victoria la nomination de Pauline Gobeil au poste de directrice générale de la Société francophone de Victoria. J'ai le communiqué de presse sous les yeux. Plusieurs auditeurs ne sont pas sans savoir que Madame Gobeil était auparavant présidente de la Société francophone, donc c'est un nouveau rôle pour elle à la direction générale. Elle succède à Paul-André Mongeau. Vous trouverez ce communiqué sur le site de la Société francophone de Victoria, francocentre.com, et nous aurons dans quelques instants, après cette courte pause musicale, la chance de parler en personne, de vive voix, avec Pauline Gobeil qui sera en studio avec nous. Restez à l'écoute, cette interview suivra dans quelques instants. De retour dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Voilà, la nouvelle est annoncée. La Société francophone de Victoria a maintenant un successeur pour Paul-André Mongeau qui a quitté il y a quelques temps à la fin du printemps. Il s'agit, roulement de tambour, de Pauline Gobeil. Bonjour Pauline.
Bonjour Alexis.
Plusieurs auditeurs vous connaissaient déjà, vous avez occupé la présidence de la Société francophone de Victoria. Oui. Vous étiez à ce poste depuis combien de temps?
Depuis mai 2014. Ça faisait 3 ans.
Vous connaissez bien la société, vous l'avez connue de l'intérieur. Qu'est-ce qui vous a incité à solliciter la fonction de directrice générale?
C'était une session de circonstances qui sont arrivées à point dans ma vie en même temps que dans le temps.
Dans le schéma de la société?
Oui, oui. Exactement. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand Paul-André Mongeau nous a dit qu'il partait, à ce moment-là, bon, il a été super gentil de rester un petit peu plus longtemps puis de nous aider à comprendre le fonctionnement puis de voir comment les choses se faisaient. Puis, tranquillement, avec l'équipe, on s'est mis à travailler là-dessus. Puis là, c'est là que je me suis mis à penser, je le fais déjà. Fait pourquoi pas essayer. Puis en même temps, ben là que je suis rendue, ben je pouvais prendre ma retraite. Oui. Avec mon travail régulier. Ça fait que j'ai commencé à investiguer
la question.
Puis c'est arrivé que tout a tombé en place automatiquement presque. Puis ça fait que immédiatement, en premier, je savais pas trop comment faire. Puis là, on a regardé les statuts et règlements de la société. Puis il y avait une clause qui disait que si un membre du CA était intéressé à une situation, à un travail rémunéré, il pouvait justement le dire aux membres, puis se retirer de toutes les discussions. Fait que j'ai fait ça. Puis après ça, je savais pas qu'est-ce qui se passait.
Est-ce que votre décision est arrivée très tard dans l'appel à la candidature? Est-ce que vous avez posé votre candidature très tard dans le processus?
Non, avant que l'appel en candidature soit fait,
ah oui,
j'y pensais déjà. Ça fait que j'ai dit tout de suite, j'ai dit je m'occupe de rien, je suis pas impliquée dans rien, je suis intéressée. Puis là, on a regardé comment faire, puis ils ont formé un comité qui était avec d'autres personnes.
D'accord. Pas trop triste de laisser une carrière dans les laboratoires, une carrière
non,
de quelques
temps.
Décennies?
Non, c'est bien.
Oui.
Ça, depuis 75.
Quand même. Une carrière dont on a parlé dans l'émission Sport et Santé Magazine, oui, à l'antenne de CILS. Vous aviez décrit vos activités, en quoi consistait votre travail dans le secteur de la santé. Les laboratoires, mm-hmm, c'est un secteur méconnu du grand public. On avait pu survoler tout ça. Ça avait été très intéressant. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se présente comme défi à la Société francophone de Victoria au cours de la prochaine année et des suivantes?
Ben, dans ma tête, mon but principal, c'est de reconnecter avec la communauté. Mais reconnecter au niveau communautaire, dans le sens de... Mon rêve, c'est de voir que la nouvelle salle communautaire qu'on a dans nos nouveaux locaux,
oui,
ça devienne un centre vivant qui ait toujours du monde, qui ait toujours des activités. Quand tu penses francophonie, tu penses automatiquement, tiens, on va aller là-bas. Ça, c'est mon rêve.
Au 12-18 Langley, ici dans le cœur historique de,
exactement,
Victoria, donc la porte est ouverte.
Exactement.
Ça, c'est une des priorités.
De reconnecter. Ça fait que, à un moment donné, à la société, on est une petite équipe. Mais quand il y a plein de monde qui sont intéressés, puis qui sont fiers de leur culture, puis qui automatiquement les idées commencent à bourgeonner, les gens sont intéressés à participer ou à partir leurs choses, l'effervescence, c'est ça. Fait que c'est ça que je m'enligne pour essayer de faire.
C'est pas nouveau le communautaire pour vous. Vous avez,
non,
été engagé dans différentes associations,
oui,
différents organismes au fil des ans. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le parcours?
Ben, quand mes enfants sont nés, c'est là que ça a commencé. Puis en 92-93, je me suis impliquée avec la garderie. Hein? Mmh. Puis là, j'ai suivi les enfants. Ça fait que quand ils sont rentrés à l'école, je suis allée avec l'association de parents. Puis là, je suis allée au niveau provincial avec la Fédération des parents francophones. Puis, là, on a parti la cause juridique, puis il y avait toutes ces grosses choses-là qui se passaient.
Est-ce qu'on peut rappeler juste en quelques mots quelle cause il s'agissait?
Ah, c'est avec les écoles, le Conseil scolaire francophone, puis la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique. Oui. On a poursuivi le gouvernement pour qu'il nous donne des écoles. Des écoles qui étaient de qualité égale à celles que les anglophones avaient.
Parce que la demande était là.
C'est ça. Ah oui, beaucoup.
Et les droits constitutionnels étaient là, eux aussi.
Oui. C'est ça. Ben, on essayait aussi d'y aller pour la réparation, l'article 24 de la Charte des droits, mais ça, c'est encore à travailler.
D'accord. Mm-hmm. Alors, politique de la porte ouverte, politique oui. de l'accueil à bras ouverts.
Exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner dans l'agenda des prochains mois?
Non, ça va être principalement ça, puis de partir une programmation qui sera pas trop grande au début parce qu'on veut faire les choses bien.
Oui.
Puis avec l'équipe, ben ça va être excitant, ça fait qu'il y a s'ajuster, puis après ça apprendre à connaître, parce que je veux dire, même si j'ai été impliquée au niveau du conseil d'administration, tu connais pas tous les rouages. Mm-hmm. Ça fait qu'il y a toujours de l'apprentissage à faire, puis on va faire de notre mieux.
Ceux qui sont venus au 12-18 Langley, ici dans le cœur historique de Victoria, en mai dernier, à la pendaison de Crémaillère, mm-hmm. dans les nouveaux locaux, ont pu faire votre rencontre.
Oui.
Vous étiez alors présidente de la société, maintenant vous êtes directrice générale. À quelle occasion pourra-t-on échanger avec vous? Est-ce qu'il y a un événement dans le calendrier pour la société, au cours duquel on pourra peut-être échanger dans le cadre d'un 5 à 7 ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe?
Moi, c'est une bonne idée.
Oui. Ben, il y a toujours le premier jeudi du mois.
Oui. Le premier jeudi du mois, ça, c'est les 5 à 7, là, les beaux jeudis.
Oui.
Ça, à chaque mois, le premier jeudi. On se rencontre tout au Yates Tap House. Pendant l'été, c'est un petit peu plus tranquille.
Oui.
Mais non, je trouve l'idée excellente. On va regarder ça. Puis justement, la semaine prochaine, on commence une petite rencontre avec l'équipe là pour essayer de voir, faire un plan d'action, puis de voir comment on va se diviser les tâches, tout ce genre de choses-là.
Génial. Parce que le lieu ici, au 12-18 Langley, se prête vraiment aux réunions, aux réunions conviviales. On l'a vu lors du 5 à 7 de la pendaison de Crémaillère.
Une centaine de personnes.
Oui, l'ambiance était géniale.
Ouais.
Tout le monde avait le sourire, rayonnait.
Ouais.
C'était vraiment fantastique.
Ouais. Donc, puis c'est ça justement, c'est qu'il faut garder ça comme ça tout le temps.
Oui.
Puis après ça, ben c'est que ça nous donne un goût aussi, parce que le but principal de la planification stratégique de la société, c'est d'avoir une maison de la francophonie.
À terme.
À terme, ben c'est
à
ça.
À long terme?
Ben tout pour toujours.
Oui.
Je veux dire, c'est que c'est ça le but.
Est-ce que l'adresse ici, c'est définitif?
Non.
Est-ce que c'est ici qu'on veut vraiment habiter?
Non, ben parce que c'est ça justement, c'est que quand on parle de maison de la francophonie, c'est qu'on veut aussi devenir propriétaire de nos propres locaux.
Oui.
Ça fait que ça, on n'est pas encore rendu là. Mais ça nous donne la chance de pratiquer, comme je dis.
Voilà.
De dire, bon, OK, est-ce qu'il y a un vrai besoin? Est-ce que la communauté est en arrière de nous puis qu'ils vont l'utiliser? De quelle manière elle va le faire? Tu sais, c'est d'écouter, d'essayer, de réajuster, puis d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin.
Il faut créer un mouvement, un élan, un momentum.
Exactement.
Tant dans le paysage politique qu'auprès du membership.
Ouais.
J'imagine que ce sera une combinaison de philanthropie et de fonds publics qui vont mener à la réalisation de ce rêve.
C'est que ça, oui. C'est exactement. Puis après ça, c'est d'aller chercher l'aide professionnelle qu'on a besoin. Après ça, de discuter. Puis de l'autre côté, il y a aussi beaucoup, j'appelle ça en parenthèse, là, de politique. Tu sais, de dire, ben, je trouve que moi, la société devrait être impliquée quand que on s'en va à, je sais pas moi, Life Lab, par exemple. Puis qu'il y a des instructions qui sont écrites en 8 langues, mais il n'y a pas de français.
Oui. Ça, c'est un fait divers, une actualité qui a attiré l'attention de la communauté francophone, effectivement.
Ben, c'est ça. Mais le rôle, pour moi, le rôle de la société, c'est aussi ça.
Un petit brin de
lettres, oui. De dire, excusez-moi, monsieur ou madame, les francophones sont aussi partie de la communauté.
Oui, langue
officielle. Et en plus, on est une langue officielle.
Voilà.
Exactement. puis d'aller le piquer un petit peu là, régulièrement, puis de le rappeler. Parce qu'ils font pas par méchanceté.
Non.
C'est qu'ils pensent pas.
C'est un oubli chronique.
Exactement.
Et nous, il faut se rappeler aux bons souvenirs de nos concitoyens.
Mm-hmm.
C'est notre tâche, c'est notre quotidien. Pauline Gobeil, nouvelle directrice générale de la Société francophone de Victoria. Félicitations.
Merci.
Et au plaisir de se retrouver à l'antenne du 107.9 FM très bientôt.
Merci beaucoup.
Si vous venez de vous joindre à nous, vous êtes dans l'émission Le Débrief, le rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. Merci d'être à l'écoute. J'accueille en studio notre chroniqueur politique régulier, Till Phelps Bondaroff. Bonjour Till.
Allô, comment ça va?
Ça va très bien, merci. Donc une semaine chargée. On a connu une semaine chargée en politique provinciale. Le nouveau premier ministre John Horgan a nommé son cabinet ministériel. On va essayer de connaître qui sont ces gens, qui sont ces nouveaux ministres. La liste a été divulguée en début de semaine, mardi précisément. Tu étais, je crois, à l'Assemblée législative de la province pour, avec le grand public, assister un petit peu à l'effervescence qui avait lieu en cette grande journée de transmission du pouvoir, n'est-ce pas?
Moi, j'étais là, il y avait du crème glacée gratuit, et beaucoup de personnes qui souriaient, et c'était un grand moment. C'est
oui.
Déjà 16 ans, le changement de gouvernement, alors il y avait un fol de gens là-bas,
oui.
Beaucoup des nouveaux ministres de cabinet, beaucoup de militants de la partie, différents partis, de la membre publique, et beaucoup de bonne énergie là-bas.
Oui, l'ambiance était bonne. Hein?
Ouais, je pense que les personnes sont dans l'air, la change.
Le changement.
Ouais.
Magnifique. Donc, qui sont ces ministres nommés par John Horgan? Évidemment, on connaît John Horgan, on sait qu'il est le premier ministre, il est à la tête de ce gouvernement. Il a bien sûr l'appui du Parti vert d'Andrew Weaver. Alors, peut-être pourrait-on commencer par Carol James. C'est une députée de la région de Victoria. Elle a été nommée aux finances.
Ouais, ouais, avant, on a parlé à propos de Carol, qui vient d'ici.
Oui, voilà.
Nous sommes dans sa propre conscription maintenant. Et vous vient juste à dire qu'il y avait une parité entre les hommes et les femmes, qui est très important.
Oui.
Il y a un bon mélange de gens avec l'expérience et les nouveaux députés, qui est intéressant. Nous avons des députés qui ont été élus pour la première fois ou pour la deuxième fois dans les bi-élections.
Oui.
Puis aussi.
Les élections partielles.
C'est ça. Il y a des gens aussi qui sont représentés de tout partout de la province. Et des 16 députés qui ont servi dans le NPD depuis 2005, 12 sont dans le cabinet. Alors, il y avait beaucoup d'expérience là-bas, mais aussi de nouvelles personnes. Mais retournons
parce qu'on a besoin d'expérience, on a besoin de gens stables, aguerris, qui ont combattu dans la joute parlementaire dans les années passées, parce que c'est quand même, il faut bien se l'avouer, un gouvernement précaire qui ne tient qu'à un fil.
Il y a toujours une balance aussi parce que les nouvelles personnes apportent de nouvelles énergies et aussi ont besoin de toujours représenter des différentes régions de la province.
Oui.
Et l'NPD est peu représenté dans quelques régions de la province. Alors, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'être là pour donner une voix à leur région aussi.
Voilà.
Mais retournons à Carol James.
Oui.
Alors, Carol était l'ancien dirigeant de l'NPD en 2003. Elle était responsable pour la grande croissance de la partie en 2005. Elle a gagné 41% de la vote dans cette année-là. Et elle est ancienne travailleuse sociale. Elle travaillait comme un commissaire d'école. Et Horgan a supporté Carol quand elle était dirigeur. Elles ont une bonne relation. Elle a beaucoup d'expérience. Et pendant l'élection, nous avons partagé un office ici en Victoria.
Oui.
Alors,
on peut rappeler aux auditeurs que tu étais consultant pour le NPD et le candidat Bryce
Cassant en Oak Bay Gordon Head. Oui, nous avons partagé un office de Carol. Sa équipe était excellente. Beaucoup d'énergie. Beaucoup de jeunes femmes qui travaillaient très fort pour une ancienne dirigeur très capable.
Magnifique, magnifique. Donc, Carol James, qui est aux finances, également vice-première ministre.
C'est ça, ouais.
Un poste important. Donc,
je l'ai rencontré à la législature, il y avait pendant une semaine, et j'ai dit, oh, quand Horgan quitte pour parler des choses comme les feux de forêt, elle est responsable. Elle était, oh, un peu surpris de ça, ouais, mais elle est députée.
Oui, voilà, vice-première ministre. Ensuite, dans cette liste que l'on peut consulter, notamment sur les portails anglais et français de Radio-Canada, liste complète du cabinet Horgan, nous avons ensuite Adrienne Dix au poste de ministre des Finances.
Oui, Adrienne est l'ancienne dirigeante qui était dirigeante avant de Horgan, et très capable.
Il a été chef du NPD.
Ouais.
Okay. Et
il a été chef de NPD l'élection passée, quand nous avons perdu par un tout petit peu
de
vote. Et, il a beaucoup de travail après, à faire. Par exemple, la NPD a promis de prolonger les heures de chirurgie. Et aussi, en 2019, les contrats avec les travailleurs des hôpitaux et de santé s'expirent. Alors, il va très tôt entrer dans les négociations avec les syndicats des travailleurs de santé. Alors, c'est un grand job pour
eux. La crise des opioïdes aussi.
C'est ça. Mais je pense que la crise des opioïdes va être partagée avec Adrienne, mais aussi avec l'autre député de santé. Parce que d'une façon, il y a deux députés de santé. Et ça, c'est le député Judy Darcy, qui est le député, le ministre de santé mentale et addiction. Alors, d'une façon, il y a deux ministres de santé. Ils ont divisé. C'était un grand promis de Horgan dans les élections pour vraiment donner l'appui à la question de la santé mentale. Et alors, Judy Darcy a besoin
lorsqu'on a une crise de cette amplitude, on a besoin d'un ministère vraiment particulier pour s'attaquer aux problèmes. Et comme tu le soulignes justement, c'est ça, Judy Darcy est ministre de la santé mentale et des dépendances.
Mais quand nous parlons de la question des opioïdes, il y a des autres aspects qui entrent dans la conversation.
Oui.
C'est pas seulement la santé mentale, mais aussi la pauvreté, le logement. Alors, c'est une question que la partie NPD va travailler très fort pour combattre, mais il y a des différents aspects de la question dont les différents ministres vont être responsables.
D'accord.
Mais parlons de Judy Darcy brièvement.
Oui.
Comme nous avons dit, c'est une nouvelle position, c'est un nouveau ministre, et elle a déjà travaillé. Elle était présidente du syndicat du canadien de la fonction publique et déjà travaillé avec le syndicat des travailleurs des hôpitaux. Alors, elle a des connexions, des relations avec les personnes qui travaillent dans le service santé. Et à la fin de la journée, il y a beaucoup de questions, comme nous avons dit, comme les opioïdes, dont elle a besoin de travailler rapidement.
C'est vraiment une crise majeure. On connaît tous quelqu'un qui a été touché par cette crise. C'est pas 6 degrés de séparation, là. C'est vraiment toujours 1 degré de séparation. Il se passe pas une semaine sans que plusieurs nouveaux décès surviennent ici même à Victoria, dans tous les milieux, hein, les milieux aisés, les milieux populaires, les gens de la rue. Oui, un sujet très important, comme tu le dis. On va continuer à descendre dans cette liste.
La statistique dont j'ai écouté, c'est une personne dans les États-Unis meurt chaque 15 minutes à propos des opioïdes.
C'est énorme.
Alors, c'est une grande question.
C'est énorme. On y reviendra peut-être ensemble sur cette question dans une chronique ultérieure, si tu veux. C'est vraiment un sujet important. Donc, Adrienne Dix, est-ce qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire sur Adrienne Dix?
Il y a beaucoup à dire sur Adrienne Dix, mais comme nous avons dit, il a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail avant eux. Et aussi, je pense, il y a la nouvelle question de coopérer avec Judy Darcy, avec les autres ministres. Alors, c'est un rôle dont il a l'expérience pour le faire. Et c'est bon pour lui, ouais.
Oui, et en complément, on peut dire que Adrienne Dix s'exprime dans un français impeccable. Nous l'avons interviewé ici à CILS FM ce printemps durant la campagne électorale. On espère...
On devrait inviter pour discuter les opioïdes ici.
Ça serait formidable.
Il sera plus informé à ce sujet que moi, je pense.
On est à 5 minutes de marche de l'Assemblée législative, donc on peut peut-être se croiser les doigts et un jour interviewer Adrienne Dix dans cette émission en ta compagnie, bien sûr. Alors, plus loin dans cette liste des nouveaux ministres du gouvernement de Colombie-Britannique, on retrouve le nom de Rob Fleming à l'éducation.
Rob Fleming est mon député, alors je le connais très bien. Ma partenaire travaille sur son exécutif de son conscription, alors comme full disclosure là.
Oui.
Mais alors c'est Victoria Swan Lake. C'est intéressant avec Rob Fleming, il est l'ancienne critique d'éducation. Alors c'est peu souvent que les personnes qui sont les critiques d'un portfolio reçoivent le portfolio comme ministre.
Pourquoi?
Il y a quelques raisons. La première et la raison la plus grande, c'est que les critiques prennent beaucoup de temps à critiquer les ministres. Et des fois, c'est difficile d'entrer dans le ministère d'une façon, dans une position de leadership. Ah. Alors, il prend beaucoup de temps à critiquer les gens, et après ça, il a besoin de travailler avec les gens. Des fois, il y a des souvenirs.
Ah, un peu oui, des mauvais souvenirs chez les sous-ministres.
C'est ça. Okay. C'est ça. Et aussi, comme critique, c'est son job de vraiment scrutiniser tout le contenu de le ministre. Et des fois, son rôle, c'est de demander des questions difficiles, mais des fois, c'est des questions dont il a besoin de maintenant répondre à l'autre côté. Alors, des fois, c'est un peu difficile de négocier la position, mais Rob Fleming est très capable de le faire. Et il était mon choix pour le ministère de l'Éducation.
Alors,
aussi.
Conséquemment, puisque tu m'apprends que c'est pas la pratique normale, c'est pas la pratique habituelle, crois-tu que Rob Fleming va être bien accueilli au ministère de l'Éducation?
Je pense que oui. Oui. Il a commencé son carrière politique dans les syndicats des étudiantes et il a déjà commencé à travailler.
Oui.
Et il a besoin de la faire parce que comme nous avons discuté dans le passé, il y a 16 ans de négligence par les libéraux. Et aussi, il a besoin de travailler très fort pour deux choses. Un, les étudiants retournent à l'école en septembre. Mais deuxièmement, ils ont besoin de vraiment travailler pour reconstruire les relations avec les professeurs. Oui. Parce qu'il y avait déjà beaucoup d'ans où les libéraux de Christy Clark ont oublié les professeurs, ont maltraité, ils ont même allé à la Cour suprême pour la discuter. Oui. Et Christy a perdu, les professeurs ont gagné. Alors, Rob a beaucoup de travail, mais parce que je pense que ça va être plus facile pour Rob, parce qu'il y avait la relation antagonistique entre les professeurs et le gouvernement.
Oui.
Et c'était Rob qui battrait sur le côté des professeurs.
Oui.
C'est très facile de transitionner dans le ministre parce qu'il va coopérer avec les gens qui a déjà coopéré dans le passé.
J'imagine que ces chiffres, ces statistiques ne sont pas disponibles, mais on peut supposer que la majorité des professeurs ont voté pour le parti de John Horgan en mai dernier.
Je suis pas les statistiques, mais je sais que quand je travaillais pour parler avec les gens, nous avions beaucoup de bénévoles qui étaient les professeurs et les étudiants aussi. Alors,
voilà.
Ouais, je serais pas surpris de ça.
David Eby est ministre de la Justice. Qui est ce monsieur?
David Eby était un grand supporter de John Horgan dans le passé, un de son, des amis très proches. Il a gagné son siège contre Christy Clark dans l'ancienne élection.
Ah.
Alors, si les écouteurs se souviennent, l'ancienne élection, Christy Clark a perdu sa siège. Elle avait besoin de entrer dans une élection partielle, dans une autre circonscription.
Oui.
Et c'était à cause de David Eby.
Ah.
Alors, il est beaucoup populaire.
C'est un bon bagarreur, alors.
Oui, c'est ça. Il est très grand genre aussi.
Oui.
Comme 6 pieds 5 ou quelque chose comme ça. On peut toujours voir dans l'arrière de les photos. Mais il a une réputation de battre pour les gens, pour les plus vulnérables. Il a écrit un livre, The Arrest Handbook, A Guide to Your Rights.
Donc, c'est un avocat.
Un avocat, ouais,
oui.
Il est un avocat, mais un avocat beaucoup au sujet des droits humains.
Très pro bono. Non aussi, je veux dire, il s'est intéressé aux démunis, aux gens qui ont moins de moyens pour affronter la justice.
Ouais, je pense après de ses études, de travailler avec Pivot, une organisation de loi pour protéger les gens. Alors,
okay.
il a une bonne réputation de faire cela. Ouais. Alors, David Eby est un bon choix.
Dans quelle circonscription a-t-il été élu?
Ben, il a été élu en Vancouver, à Point Grey.
Ok.
Et, alors, une de la section corps de NPD dans Vancouver.
D'accord. Alors, on a mentionné des ministères importants. On en a mentionné 4 ou 5. Est-ce que tu veux prioriser d'autres ministères? Le temps commence à nous presser.
Il n'y a toujours pas assez de temps. Un des autres ministres qui est important, c'est Melanie Mark. Elle est la ministre de éducation avancée,
éducation supérieure,
éducation supérieure et de talent et entraînement. Et
oui.
elle était la première femme, première nation d'être élue à la législature ici en Colombie-Britannique. Et maintenant, elle est la première femme d'être dans une position dans le cabinet d'un ministre. Alors, c'est très important.
C'est pas trop tôt, hein?
Ouais, non.
C'est enfin.
Vraiment pas, ouais. Mais elle était seulement élue en 2016 dans une élection partielle. Elle a gagné par 61%, mais elle est encore un nouveau député, mais elle apporte une grande expérience de sa passé et elle connaît le sujet. Et elle connaît le sujet et l'importance de l'éducation avancée. Elle va être un avocat très important dans ce portfolio.
Super. Autre ministère?
Il y a beaucoup de bons gens là-bas.
Oui.
Selon moi, une autre question, parce que nous allons parler beaucoup dans la future de la question de le support des partis verts, des NPD.
Oui.
Nous devons parler de George Heyman, le ministre de l'Environnement.
Oui.
Et la stratégie de changement climatique. Alors, c'est un nouveau nom, une expansion d'un portfolio. Dans le passé, c'était le ministre de l'Environnement. Et maintenant, ils ont inclus le sujet du changement climatique,
okay.
La stratégie du changement climatique.
Est-ce que c'est un ministre qui va plaire aux élus du Parti vert?
Je pense que oui.
Oui.
Juste après l'annonce, il y avait beaucoup de messages par les activistes de l'environnement qui supportaient George. Il est intéressant parce que George a déjà travaillé dans deux différents secteurs. Il était le président de la syndicat BCGEU, des travailleurs provinciaux, de 1919 à 2008. Mais après ça, il travaillait avec le Sierra Club, une organisation de l'environnement. Alors, les écouteurs souviennent peut-être des conflits entre les syndicats et l'environnement dans le passé de la Colombie-Britannique. Et selon moi, le choix de George Heyman est un indice que c'est une nouvelle situation en Colombie-Britannique, que nous allons voir la coopération avec les personnes qui supportent l'environnement, comme moi, et les personnes qui supportent les travailleurs, comme moi aussi. Alors, George Heyman est un représentant, un parti prenant très important, et intéressamment, il était aussi l'ancien critique de l'environnement. Alors, comme nous avons dit, il y a des fois, c'est pas très souvent que nous voyons des gens qui étaient des critiques dans
l'opposition.
Mais il y a quelques-uns sur cette fois-ci.
Oui.
George Heyman y inclut et l'autre, Elena Popham. Pour discuter d'Elena, elle est le ministre de l'Agriculture, le député de Sandwich Sud. Et elle a déjà travaillé très fort dans le secteur de l'agriculture.
Lana Popham.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Et
députée de la région de Victoria, juste au nord, dans la péninsule.
Ouais. Et elle a sa propre verger organique des raisins.
Oh.
Et comme les personnes sachent, Saanich est une région très agriculturelle.
Oui.
Alors, elle est une figure, un personnage très important dans la question de l'agriculture autour de la province. Alors, Lana Popham est un bon choix. Et encore, ça, c'est la raison. Donc, elle a été choisie, même si elle était critique de la question agriculturelle, parce qu'elle a des bonnes relations avec les fermiers, les personnes qui travaillent dans le secteur. Et elle a beaucoup de support de ces gens-là.
OK, une équipe avec des membres accomplis au sein de ce cabinet. Avant d'écourter, avant d'aller à la conclusion, Thiel, j'aimerais savoir ce que tu penses de la nomination au logement. On a une crise de l'immobilier ici en Colombie-Britannique. Les familles ne peuvent pas se permettre de maison. Les travailleurs ne peuvent pas se permettre de loyer, d'appartement. Est-ce qu'on a un bon choix dans le créneau du logement?
Mais le choix du ministre des affaires municipaux et de logement, c'est Selena Robinson, la députée de
oui.
Coquitlam-Mellardville, et elle a beaucoup de travail avant elle. L'NPD a promis 114 000 nouveaux logements locatifs.
D'accord.
Et aussi, l'NPD a promis de fermer les lacunes de logement et d'arrêter l'achat-revent des maisons pour vraiment baisser les prix des maisons et d'arrêter la crise immobilière ici en Colombie-Britannique.
Elle a beaucoup de travail. C'est urgent, hein? Il faut s'attaquer au problème rapidement.
Et ce qui est intéressant, c'est que Selena Robinson était l'ancienne critique de santé mentale. Alors, nous avons parlé de la question de fentanyl et
oui.
La pauvreté sont tous liés.
Oui.
Et c'est intéressant c'est un bon choix, selon moi, de John Horgan,
oui.
De placer Selena Robinson dans la position des affaires municipaux et de logement, parce qu'elle a l'expérience avec la pauvreté et la santé mentale et les addictions qui est liée avec tous les problèmes.
Il y a des correspondances, il y a des connexions et on a une équipe polyvalente, si j'entends bien ce que tu me dis. On va devoir terminer. Donc, ça vous donne un avant-goût, chers auditeurs, de ce cabinet formé par le premier ministre John Horgan. Si vous voulez consulter la liste complète de ce cabinet, vous pouvez vous rendre sur le site de Radio-Canada ou sur celui de CBC. Thiel Phelps-Bondaroff, encore merci pour cet éclairage sur la politique provinciale.
Toujours un plaisir d'être ici et parler avec vous. Merci.
À bientôt. Merci. En Encore merci à nos invités du jour, Pauline et Thiel, dans cette édition du 21 juillet. Merci de l'avoir suivi. Merci de syntoniser votre fréquence communautaire francophone locale dans la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon qui vous dit rendez-vous à lundi dans une nouvelle édition du Débrief le 24 juillet. À très bientôt.
Paris.
Salut Victoria, vous écoutez CLS FM 107.9, votre radio communautaire francophone.
Info et Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour Madame, Messieurs. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a déposé son rapport annuel 2016-2017 au Parlement. On y apprend que le Bureau a publié 44 rapports d'enquête et formulé 20 recommandations pour les secteurs maritimes, ferroviaires et aéronautiques. Des données sur les enjeux de sécurité reliés à une campagne de sensibilisation proactive ont aussi été rendues publiques. Le rapport fait état du tout premier sommet multisectoriel sur la sécurité des transports. Le document rappelle aussi qu'il y a 69 recommandations en suspens qui attendent toujours une intervention du gouvernement et de l'industrie. Eh bien, O.J. Simpson a reçu l'approbation du comité de révision des libérations et sera un homme libre à compter d'octobre. Le comité de 4 membres a voté de façon unanime en faveur de la libération. L'ancienne vedette de la NFL a passé les 9 dernières années derrière les barreaux pour une affaire de vol et de complot survenue à Las Vegas en 2007. Kelly Knight Craft a soutenu devant le Sénat américain qu'elle va œuvrer sans relâche pour l'amélioration du partenariat économique entre le Canada et les États-Unis. Rappelons qu'elle a été choisie par Donald Trump pour occuper le poste d'ambassadrice des États-Unis au Canada. La comparution devant le comité sénatorial doit confirmer sa nomination. Elle a parlé aussi de faire la promotion du commerce libre et juste entre les deux pays. Les États-Unis n'ont pas d'ambassadeur au Canada depuis la démission de Bruce Amon au lendemain de l'élection de Donald Trump. D'après la police de la ville de Washington, 2 des 6 jeunes membres qui prenaient part à une compétition de robotique dans la capitale américaine ont passé la frontière canadienne. Les jeunes, 4 garçons et 2 filles, défendent les couleurs du Burundi dans le cadre du First Global Challenge. Une porte-parole de la police a dit aux médias que 2 des individus ont été vus en train de traverser la frontière vers le Canada. Le corps policier a publié des photos des jeunes sur Twitter. L'enquête se poursuit. Le ministère de la Justice des États-Unis a confirmé avoir fermé le site web